Fiasco judiciaire, mais surtout immense drame humain. Troisième épisode de notre podcast sur les 40 ans de l'affaire Grégory. 40 ans d'enquête, de coups de théâtre et de larmes, mais le ou les meurtriers de Grégory Villemain sont toujours libres ou peut-être morts. Les parents du petit garçon ont déménagé loin des Vosges, le couple, aujourd'hui sexagénaire, a trois grands-enfants et des petits-enfants. Mais ils n'ont pas renoncé à connaître la vérité. Dans le précédent épisode de ce podcast, nous avons parlé des prélèvements ADN, de ce que la science nous permet aujourd'hui de tirer de ces échantillons. Mais les enquêteurs s'appuient encore et toujours sur d'autres preuves matérielles. Serge Bühlmann, chef du commissariat d'identité judiciaire de la police fribourgeoise.
Tout élément peut être considéré comme un élément matériel, une preuve finalement. Et puis la preuve, c'est un petit peu la finalité. D'abord, on a une trace, un indice, quelque chose d'un peu plus pertinent. Et la preuve, c'est ce qui finalement va aller en direction du magistrat. Donc, on peut imaginer un couteau, on peut imaginer... alors c'est peut-être une preuve évidente. On peut imaginer un vase à fleurs qui serait moins évident parce qu'il a été remis en place et puis on ne voit pas forcément qu'il a bougé. Donc on est amené à exploiter tout type de preuves. Un élément très important en termes de police scientifique comme en termes judiciaires, c'est la continuité de la preuve. On se doit, du moment où on prélève l'objet sur les lieux jusqu'au moment où on va le déposer au bureau des séquestres au sein de la police cantonale, savoir finalement quel était le parcours de cet objet, qui c'est qui l'a manipulé, quelles techniques ont été appliquées sur cet objet. Donc tout ça, c'est recensé dans un historique de notre base de données. Et puis, on essaye toujours de garder un maximum de précautions avec ces objets. Donc ça va de l'emballage au prélèvement, à la conservation dans les bureaux, dans les locaux. Si c'est sensible, peut-être qu'on les conserve ailleurs et ainsi de suite. On se doit d'être très rigoureux. On a des protocoles à remplir. Et finalement, alors c'est parfois chronophage, mais on se doit d'avoir cette rigueur qui peut être parfois rediscutée devant les tribunaux. On le voit dans un système plus anglo-saxon comme les États-Unis, où finalement la preuve matérielle est très discutée. C'est pas forcément sur la technique qui a été exploitée, mais c'est sur finalement comment on a prélevé l'objet, où il est resté pendant les deux mois d'enquête, ainsi de suite.
Mais concrètement, une fois les indices relevés, comment en tirer des informations intéressantes? En les analysant, évidemment. On retrouve Serge Bühlmann dans un endroit un peu particulier.
Nous nous trouvons dans le laboratoire de la police scientifique de la police cantonale, donc c'est là où finalement nous allons faire pas mal de recherches de traces. Donc les enquêteurs, les enquêtrices ramènent des lieux, des objets, supports de traces, une bouteille, un verre, un couteau, une arme, et finalement viennent ici, on voit qu'il y a cette table centrale où ils vont déposer leurs cartons, leurs prélèvements, leurs sachets, pour pouvoir observer ces objets, regarder s'il y a déjà des traces apparentes, ça peut être des traces de doigts, ça peut être des traces d'autres substances, et selon un petit peu la nature du support, selon la nature de l'objet, choisir différents traitements à appliquer.
Parmi les traitements possibles, celui que permet de réaliser la cuve à cyanoacrylate. Un terme un peu barbare, pour une colle que les bricoleurs connaissent bien. Bon, on ne répare pas de vase en porcelaine ici, mais on met en évidence des empreintes digitales. Explication.
On ouvre cette cuve qui est maintenant verrouillée. Donc voilà. Et puis, cette cuve se présente un peu comme une grande armoire où on va suspendre les objets qui sont intéressants, sur lesquels on veut révéler des traces, ou les poser sur cette grille ici. Puis on viendra déposer quelques petites gouttes de colle cyanoacrylate, d'où le nom de la cuve, dans cette coupelle métallique qui se trouve sur une plaquette chauffante. Et puis, lorsqu'on aura préparé tout ceci, on pourra fermer cette cuve et enclencher un cycle de révélation de traces papillaires qui consiste dans une première phase à humidifier l'ensemble de la cuve. Donc l'humidité va augmenter à environ 80%. Puis, pendant quelques minutes, la plaque chauffante va s'enclencher et les vapeurs de cyanoacrylate vont se répartir dans l'ensemble de la cuve. Cette colle va venir se fixer sur les sécrétions sébacées, donc c'est des sécrétions qui proviennent des doigts sur les objets. Et puis dans une troisième phase, il y aura une évacuation des airs qui sera faite parce que finalement les vapeurs sont un petit peu toxiques. Donc on attend quelques minutes pour pouvoir ensuite réouvrir et observer les traces sur les objets.
Autre technique pour révéler des empreintes, la chimie.
On a différentes chapelles et puis ça nous permet donc de pouvoir faire des traitements chimiques sur les objets. Typiquement une feuille de papier qui était manipulée pour une lettre de menace, et ben on se dit voilà, il y a sûrement des traces de doigts, des traces papillaires sur cette feuille. Donc via différents mélanges de produits, des recettes, on peut les appliquer sur l'objet pour pouvoir ensuite révéler des traces. Donc certaines traces, on a des méthodes très courantes comme l'anandion, c'est une méthode de choix pour les empreintes sur du papier par exemple. On fait un petit bain dans cette solution, puis ensuite on ira placer l'objet sur une presse à chaud qui se trouve de l'autre côté du laboratoire. Une fois que j'ai trempé mon document dans ces bains chimiques, je vais venir les placer sur cette presse à chaud, qui est une presse réglée à 160 degrés. Pour fermer l'objet pendant environ 10 secondes, alors normalement il y a un compteur quand c'est enclenché, et puis ça va activer la réaction. Donc grosso modo, ça permet à la réaction de se produire. Enfin, la chaleur fonctionne un peu comme un catalyseur, ça active les molécules, et puis ça nous permet d'avoir des traces qui sont révélées.
Les policiers scientifiques fribourgeois ont aussi un labo photo à disposition, notamment pour réaliser les clichés d'empreintes, qu'ils enverront ensuite à l'AFIS, le système national de comparaison automatisée d'empreintes. Ils prennent aussi une grande quantité de photos sur les scènes de crime, bien sûr, essentielles pour capturer les détails, l'emplacement des objets, la configuration des lieux. Elles sont ensuite transmises sous format papier à la justice. Elles permettent d'illustrer les constatations faites par les agents sur place. La photo, c'est le béaba pour les policiers scientifiques.
La photographie, c'est une grosse part de l'enseignement qui est donné par les collections criminelles, notamment dans les premières années de la formation, parce que finalement, chaque trace nécessite de la photographie. Donc finalement, c'est un petit peu l'outil de base pour exploiter les autres traces. Et puis, on se doit de maîtriser les concepts d'éclairage, de contraste, et de jouer un petit peu avec cette lumière pour voir les choses intéressantes à observer. C'est un petit peu un des jeux de notre profession, c'est utiliser cette lumière aussi bien pour détecter la trace au sol que pour la capturer d'un point de vue photographique. Ça a l'air tout simple de prendre une photographie d'une trace de semelle dans la neige. En réalité, c'est bien compliqué. On a une lumière blanche sur une surface blanche, quelque chose en 3D. C'est parfois un vrai challenge où on se doit de connaître les principes clés et de les appliquer pour pouvoir avoir un rendu le meilleur possible.
On notera au passage que dans l'affaire Grégory, seul un photographe de presse a immortalisé la scène de crime et le repêchage du petit cadavre dans la Vologne. Une scène glaçante en noir et blanc, publiée dès le lendemain dans la presse française. Autre élément à vous donner des frissons, cet enregistrement du début des années 80 est d'une qualité forcément médiocre. Cette voix, presque inaudible, c'est celle du corbeau qui a harcelé les parents de Grégory et plusieurs membres de sa famille pendant des années. Selon les premières analyses effectuées à l'époque, elle appartiendrait à un homme qui la déguise. D'autres experts affirmeront ensuite que c'est en fait une femme qui parle. Au fil des années et des avancées technologiques, les enquêteurs et les parents du petit garçon espèrent toujours une identification de la voix du corbeau. Serge Bullmann n'a pas eu recours à ce genre de technique d'identification, mais il sait comment ça fonctionne.
Donc on a certaines propriétés de la voix qui nous sont propres, et puis on peut prendre finalement une voix indiciaire, telle une voix sur un enregistrement d'un corbeau ou d'une autre personne, et la comparer avec une voix de référence, et lui dire voilà quelle est la similarité entre ces deux voix. Donc on va établir le spectre vocal de cette voix et aller comparer ces spectres, tout en sachant que d'un point de vue scientifique, il n'y a pas vraiment de preuves comme quoi c'est infaillible. Maintenant, on irait peut-être plus sur la trace numérique que la voix. Finalement, alors c'est une chose qui n'existait pas avec l'affaire Grégory, mais si j'appelle une personne pour faire des menaces, on pourrait tenter d'identifier ma voix, mais on pourrait voir quel numéro a appelé, quels étaient l'email et ces informations qui sont en lien avec le téléphone utilisé, ainsi de suite. Les preuves numériques sont traitées par un autre service que le CIGE à Fribourg, mais c'est sûr qu'il y en a partout. Maintenant, les gens sont ultra connectés. Vous regardez le nombre d'applications sur le smartphone d'une personne, c'est impressionnant. Et des activités, des applications qui travaillent sans qu'on le sache. Donc, on a une quantité d'informations qui est phénoménale, qui n'est pas toujours facile à exploiter, mais qui peut être exploitée. On se connecte à différents Wi-Fi, on prend la 3G, et puis chaque fois, c'est des applications gratuites, donc on est bien content de l'avoir. Mais si c'est gratuit, c'est derrière. Il y a un certain business qui est fait et une certaine information qui est échangée et utilisée.
C'est vraiment une source presque inépuisable d'infos, non ?
Oui, alors, c'est peut-être le risque, justement. Finalement, trop d'informations tue l'information. Et après, il faut être bon. Et puis, c'est un petit peu la mission des spécialistes du domaine, d'aller faire le tri dans ces informations et puis de pouvoir exploiter ce qui est intéressant pour une enquête. Mais là, de nouveau, je pense qu'il est essentiel d'avoir des questions de base avant de faire ce genre d'analyse pour savoir ce qu'on recherche.
Pas de traces numériques dans les années 80, quand Grégory est assassiné, mais d'autres types d'éléments. Les lettres que le corbeau a envoyées à l'entourage de l'enfant avant et après le crime, et sur lesquelles plusieurs experts se sont penchés au cours de toutes ces années. La police fribourgeoise, elle aussi, utilise l'écriture dans ses enquêtes.
On a notamment au sein de mon service une personne qui est un petit peu plus spécialiste dans le domaine et qui fait ses comparaisons d'écriture et ses comparaisons de signature, où là on va pouvoir de nouveau, avec des probabilités, avancer. Ben voilà, il est possible que cette personne soit à l'origine de cette écriture, de ce texte. Je sais qu'il y a une thèse en cours au niveau de la stylométrie, donc on analyse le contenu finalement stylistique du texte, mais après nous on reste beaucoup plus dans un élément que je dirais un petit peu terre à terre. On va aller observer la formation des lettres, l'inclinaison de l'écriture, l'usage de ponctuation, ce genre de choses. Et c'est ces éléments-là qui nous permettront de dire, bah là, j'ai certaines similarités. Rien que dans la façon de former les 1, par exemple, on sait que typiquement, bah, les 1, on ne les forme pas la même chose en Europe qu'en Australie. Donc ça, c'est des éléments qui font que peut-être on peut avoir de l'information. Il y a très peu de cas où l'écriture a joué un grand rôle dans des cas médiatiques ou des cas d'homicide. Par contre, souvent dans des cas où on a des éléments de preuve litigieux, des contrats, ça arrive régulièrement, où finalement ben, c'est un petit peu le seul moyen de montrer que c'est une contrefaçon, que la personne n'a pas signé, qu'on a imité une écriture.
Écriture, voix, ADN, empreintes, aujourd'hui traces numériques, les indices sont multiples. À cela s'ajoutent tous les autres éléments recueillis au cours des investigations. Témoignages, emploi du temps des protagonistes, l'affaire Grégory, c'est une montagne de documents, d'informations, de rapports qu'un cerveau humain, et même plusieurs cerveaux humains, ne peuvent compulser. Avec le développement de l'intelligence artificielle et de logiciels capables de réaliser ce travail de fourmi, les portes s'ouvrent.
Par exemple, on peut soumettre toute une liste de PV d'audition et puis la machine va comparer un petit peu les déclarations et nous dit maintenant il y a des discordances entre tel et tel moment, telle discussion, alors que ça aurait pris des semaines pour un individu de lire, tout en espérant que ce soit le même individu qui ait lu ces deux auditions qui posent problème. Et ça, donc, on a une capacité informatique à résoudre, à synthétiser et à présenter des éléments intéressants. Il y a ces programmes qui existent en France, qui existent un petit peu partout, qui sont utilisables et qui sont finalement très intéressants lorsqu'on a une grosse quantité d'informations.
Ici, il y a des occasions où vous avez eu possibilité d'utiliser ce genre de technique.
Alors, on peut, pour les cas beaucoup plus simples, avoir recours à ces objets. On n'a pas de toutes grosses affaires où on aurait des milliers de fichiers à comparer, à analyser.
Pour l'heure, même l'intelligence artificielle n'a pas permis la résolution du meurtre de Grégory Villemain. Mal ficelée, l'enquête a aussi pâti d'une instruction judiciaire dont la conduite a été largement controversée. Nous y reviendrons dans le dernier épisode de notre podcast sur les 40 ans de l'affaire Grégory.